C'est lourd sur le réseau routier de la ville de Québec à cette heure-ci. On refera le grand détail tantôt, 418-971-1021. Ça risque d'être lourd pas mal dans la prochaine année et même les prochaines années avec ce qui a été annoncé dans les 24 dernières heures. Évidemment, on risque d'en parler pas mal dans les prochains instants. En studio avec nous, le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour.
Salut à vous trois.
Comment on va passer à travers les 7 années de construction du tramway? C'est plus des broches, c'est un dentier, là.
Non, on se débroche encore.
Des bonnes broches?
C'est des bonnes broches, oui. C'est des bonnes broches.
C'est une grosse chirurgie, même, je dirais. Ben, pas de chirurgie de la mâchoire.
Oui, tout à fait. Ça se fait pas sans effet. Ça, c'est sûr. Alors, on mentira pas aux gens. On dira pas, il se passera rien. Non. Par contre, il faut se rappeler que c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là.
C'est, ben justement, parce que là, c'est échelonné des travaux sur 7 ans, mais ça peut ressembler à quoi les périodes où ça va être critique?
C'est vraiment les périodes de pointe.
Les heures de pointe.
Ouais, notre réseau, dans ce secteur-là de la ville, là, ça représente 7 % du territoire. Donc, c'est la haute ville, là, ce qu'on appelle la zone d'influence, là, le trajet du tramway. Ça représente 7 % du territoire, mais ça représente plus que 7 % en déplacement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers là travailler, il y a beaucoup de gens qui vont vers là pour des événements. Mais la période où on est déjà en problème, c'est la période heure de pointe, vous le savez, là, vous faites l'émission du retour, c'est cette période-là, et c'est la période du matin. Le reste du temps, on est en surcapacité par rapport aux besoins, donc on a encore de la capacité sur d'autres artères de faire passer plus de monde. La fin de semaine, même chose. C'est vraiment le matin du lundi au vendredi et le soir du lundi au vendredi.
Qu'est-ce qu'on dit aux gens de partir plus de bonne heure, de ne pas prendre le char, de prendre l'autobus plus de bonne heure, parce que l'autobus va lui aussi, à un moment donné, là, va atteindre sa saturation? C'est quoi qu'on dit aux gens, mettons, à partir de la mi-mars? Là?
Bien, d'abord, ce qu'on voulait faire, puis on voulait le faire vite, puis moi, j'ai insisté là-dessus, là, pour que les gens aient l'information. Donc, voici, il y a 5 secteurs de travaux. Puis dès qu'on va avoir des détails de quand est-ce que ça commence dans tel secteur, on va le dire aux gens. Fait que pour traiter le citoyen avec intelligence, il faut lui donner de l'info puis que lui, après, puisse se dire « OK, je fais quoi? » La deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est 30 mesures pour adoucir ça. Mm-hmm. Ça ne sera pas sans effet, là. Ça ne sera pas revenir en arrière, mais 30 mesures qu'on met en place, notamment la transformation des parcours du RTC, notamment des mesures qu'on fait pour fluidifier la ville, la gestion artérielle, un paquet d'enjeux pour mieux circuler qui vont venir réduire les effets de ça. Après ça, ça appartient aux citoyens de dire « OK, est-ce que je peux, moi, changer mes heures de travail? » Peut-être pas. Il y en a qui ne peuvent pas changer leurs heures de travail. Mais si je peux, je le fais-tu? Je regarde ce qui m'est... J'ai 2 mois là, pour me dire « Je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Comment je le fais? » Est-ce que je prends un autre moyen pour me rendre? Est-ce que je fais plus de télétravail? Tu nommais le télétravail.
Est-ce que j'évite le secteur simplement? Est-ce que vous craignez pas ça que certains secteurs de la ville se retrouvent abandonnés par habitude, même si vous me parlez seulement des périodes de pointe?
Bien, je pense que si on se dit « Ah, ça va être comme ça tout le temps, tous les jours, à toutes les heures », ben oui. Mais si on regarde c'est quoi la réalité, c'est les heures de pointe qui sont critiques.
Parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont visés pour les 7 prochaines années qui ont déjà eu la vie dure dans les 10 dernières années. Ben, je pense au secteur de l'église, entre autres, certains secteurs en Haute-Ville. Il y a bien des automobilistes de banlieue et j'en suis que...
Qui évitent soigneusement ces coins-là.
Le plus possible.
Ben moi, j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça t'empêche pas d'aller au festival d'été, ça t'empêche pas d'aller au Diamant voir la lutte.
Non, mais par contre, on va prendre le secteur du Vieux-Québec, qui est un secteur où on a amené beaucoup de vie pendant la période des fêtes, mais s'y rendre, c'est un capharnaüm, puis pourtant, il n'y a aucune contrainte de travaux ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui choisissent d'aller dans d'autres secteurs de la ville. Là, vous parlez seulement d'heures de pointe, mais suffira qu'il y ait un spectacle dans un coin ou quoi que ce soit pour prendre ces heures de pointe-là puis carrément les multiplier.
En fait, et c'est là qu'on doit être comme collectif. Là. Puis nous, la ville, on a un devoir d'exemplarité. Vous avez raison de dire que si on ne change pas nos pratiques, je vais vous donner un exemple en lien avec ce que vous dites. Diamant, Palais-Montcalm et Capitole. 3 salles de spectacle qui, présentement, fixaient leurs heures de début de spectacle, chacune comment elle le préférait. Bien, si on veut mieux travailler ensemble, c'est déjà problématique quand tous les spectacles commencent à 8 heures.
Oui, dans le temps des fêtes, on le voit régulièrement.
Oui, c'est ça. Alors, c'est même pas juste les événements. C'est juste que dans une ville comme la nôtre, si on veut travailler, bien, il y en a un qui commencera à 7h30, l'autre à 8, l'autre à 8h15. Puis, ils alterneront. Mais je pense qu'on a des solutions comme ça qui peuvent faire en sorte de diminuer les effets négatifs. Beaucoup.
Est-ce qu'il y a des enjeux d'urgence,
de sécurité.
Des enjeux de sécurité, parce qu'il y a quand même plusieurs hôpitaux dans ce secteur.
Le Jeffrey Hill, l'hôpital Saint-Sacrement, nous soulignait aussi l'ISCPQ, qui est aussi dans ce coin-là.
Bien, alors, le premier regard qu'on pose, c'est sur la sécurité. Comment on fait pour maintenir les services d'urgence? On parle d'hôpitaux, on parle de soins hospitaliers, mais on parle aussi de pompiers, on parle aussi de policiers, on parle aussi de capacité de déplacer des ambulanciers lorsque le besoin est. C'est ça qu'on regarde en premier. comment on fait pour qu'ils aient les espaces nécessaires pour faire en sorte de pouvoir se déplacer et répondre à nos urgences.
Donc, les services d'urgence vont avoir des solutions. Mais on mentionnait aussi que le métrobus aurait plus d'arrêt en avant du CHUL. On parle souvent d'une population vulnérable qui est appelée à se déplacer pour des examens.
À mobilité réduite.
Exactement. Puis on leur demande quand même de franchir. Je comprends que pour quelqu'un en santé ou pour un employé, c'est mineur comme désagrément. Mais on est dans une situation actuellement où on tente de prendre soin de nos plus vulnérables.
Ouais,
est-ce qu'on considère ce volet-là?
Oui, oui.
Mais parce que là, on parle d'un 400 mètres de plus facile. Là?
Mais alors, c'est ce qu'on va devoir tout le temps adapter et améliorer. Il faut qu'on on réduise ça. Mais évidemment, s'il y a un trou en face de l'hôpital, quand même que je dirais que je veux le réduire, si on n'est pas capable, on n'y arrivera pas. Mais cette considération-là, elle est prise tout le temps au sérieux et surtout pour les plus vulnérables. Il y a des gens pour qui 400 mètres de plus, bon, ça peut être un peu plus long, mais c'est pas plus que ça. Pour d'autres, c'est plus vulnérable, notamment ceux qui ont besoin de services hospitaliers, vous avez raison.
Mais on a des solutions pour ces personnes-là?
Bien, on va travailler à trouver des solutions. On en a plusieurs. Dans les 30 qu'on propose, il y en a beaucoup. Mais je suis pas en train de dire que ça va être parfait dès le premier jour. Je suis en train de dire qu'on a fait un effort colossal. C'est jamais vu à la Ville de réunir autant de partenaires, pas juste la Ville, des partenaires externes, puis de dire, regardez, là, moi, c'était une demande, là. On prend ça au sérieux, puis on n'attend pas les conséquences pour dire, ah, finalement, il faudrait faire de quoi? On le fait maintenant. On donne aux citoyens l'information. Puis on leur dit, voici comment vous pouvez, à tout le moins, avoir de l'information pour dire comment vous allez vous gouverner avec ça.
Mais M. Marchand, que ce soit dans le cas des hôpitaux, dans le cas des commerces, dans le cas des salles de spectacle, est-ce que c'est des gens qui ont été consultés avant qu'on arrive avec le résultat et les propositions d'aujourd'hui? Parce que là, il y en a qui ont levé la main puis qui disent, bien là, nous autres, on apprend tout ça en même temps que vous autres à la radio, là.
Alors, ça dépend à qui. Est-ce que certains acteurs de notre monde, du monde important, mettons des acteurs économiques, des commerçants, la réponse est non. On ne fixe pas l'échéancier de travaux en fonction de dire qu'est-ce qu'il y a le désagrément ça va faire. L'échéancier de travaux, il est là pour maintenir le coût. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, c'est drôle, il y a des gens qui sont critiques, ah, le tramway, on ne le veut pas. Ah, vous devriez le faire sur une plus longue période. Niaisez-vous, là. On ne peut pas vouloir qu'il coûte moins cher puis dire on va le faire sur 10 ans à place de 7. Puis ça va coûter moins cher, ça va coûter plus cher.
Est-ce qu'on
ça va être plus désagréable pour le monde.
Est-ce qu'on accélère les travaux par souci d'économie ou on veut être sûr qu'on soit trop avancé s'il y a un gouvernement qui veut backer à un moment donné parce qu'on est dans un changement de garde à peu près partout?
Ouais. Non, non, c'est vraiment l'économie. C'est vraiment la capacité de rentrer le plus vite possible les travaux avec le moindre coût.
On n'a pas l'impression de jouer au poker avec l'économie de ce secteur-là, justement. Je trouve que c'est une grosse mise, moi, sur la table de Québec.
Sur le long terme,
oui, mais t'as raison qu'il y a un risque. Puis c'est pour ça qu'on a le programme, un des programmes les plus généraux au Canada, pour soutenir nos commerçants. À Edmonton, ils ont fait des travaux comme ça. Ils ont dit, le conseil de ville a dit, nous autres, on n'en fait pas de programme comme ça, c'est trop compliqué. Nous autres, on donne 7 500 dès la demande. Puis l'analyse de la demande, si on monte des pertes, on est capable d'aller jusqu'à 30 000 par année, incluant le 7 500. Pourquoi? Pour soutenir nos commerçants. Là, les gens vont dire 30 000, oui. Mais oublions pas, ce n'est pas 30 000 de revenus, c'est 30 000 de bénéfices qu'on leur donne. Il n'y a pas de dépenses associées à ça. Ils vont pouvoir couvrir leurs frais fixes. Je ne suis pas en train de dire que c'est le Walt Disney. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que les commerçants n'auront pas des désagréments. Je suis juste en train de dire qu'on essaie de prendre soin le plus possible de notre monde dans un calendrier de travaux qu'on essaie de faire le plus vite possible pour avoir la moins grande durée d'effets négatifs.
Mais là, on parle de travaux sur plusieurs années. Quand vous avez fait votre conférence de presse après la présentation des mesures, vous avez parlé, mais les citoyens vont s'adapter. Regardez comment ils se sont bien adaptés aux fermetures du pont. J'imagine que vous faisiez référence aux fermetures de plusieurs voies du pont La Porte il y a quelques années
de ça. Oui, c'est ça, exactement, oui.
En tout et pour tout, combien de jours ça a été fermé?
Ah, c'est rien par rapport à ce qu'on va...
Ça a été fermé 10 jours sur deux périodes, effectivement. Ouais. Puis la plupart des gens, plutôt de s'adapter, ont choisi carrément de ne pas aller d'une rive à l'autre.
Ce qu'on ne peut pas faire pendant 5 ou 7 ans.
Non, non, c'est ça. Mais les travaux, c'est rare les places où il y aura des travaux pendant 5-7 ans. Au total, la durée des travaux est de 7 ans. Mais il y a des endroits où les travaux vont durer 1 an, 2 ans. Des endroits où ça va durer 3 ans. On n'est pas partout en travaux également. Il y a des endroits présentement dont les travaux ont été faits qui vont permettre de circuler. Je viens pas vous dire aujourd'hui là, que ça va être facile. Là. Je viens pas vous dire que ça va être comme avant. Non, non, ça ne sera pas comme avant, c'est vrai. Mais à partir du moment où on fait un grand chantier qui va avoir des effets positifs, mais le temps de la construction, il y a des effets négatifs. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on fait tous les efforts pour diminuer les effets négatifs.
Je propose que la Ville de Québec a eu des problèmes à communiquer ces informations dans les dernières années. Comment on va faire pour que ce soit beaucoup mieux, alors que là, tout le monde va être impliqué dans une mesure quand même majeure à la grandeur de la Ville de Québec? Là.
Pas à la grandeur de la Ville, parce qu'il y a des endroits qui n'auront pas de travaux. Là. Il n'y a pas de travaux dans Beauport. Il y a d'autres travaux, mais il n'y a pas de travaux partout.
Oui, mais on bouge tout dans ce ville-là. Là. Je veux dire.
Que tu veux dire, on bouge tout.
Ben, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va se ramasser à aller au festival d'été. Ça va prendre un mode d'emploi. Okay. Je veux dire, tout le monde va avoir à aller à l'hôpital au moins une fois dans 5 à 7 prochaines années.
On ne souhaite pas, mais ça va arriver.
Je dis qu'on va tous être interpellés dans une certaine mesure.
Je comprends ce que tu veux dire. Okay. Ouais. Alors, ben, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est de faire en sorte de dire comment on garde ça le plus fluide possible. Il y a des gens qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture. Il y a des gens qui ne pourront pas changer leurs heures de travail. Il y a des gens qui ne pourront pas faire de télétravail. La personne qui nous écoute aujourd'hui, elle va dire « c'est bien beau, moi je peux pas ». En fonction du travail que je fais, en fonction de pour qui je travaille. Un commerce ouvert, il ne va pas dire « ben maintenant on est ouvert de midi à minuit ». Mais non, ça ne marche pas. Alors, on a un travail collectif à se dire « ben si c'est possible pour certains, on va essayer de leur rendre la vie facile pour que ceux qui changeront leur pratique ben, vont faire bénéficier à d'autres de plus de fluidité ».
Avant de passer aux autres sujets, moi, celle-là, je l'ai sur le cœur, là, parce que j'ai l'impression qu'on a manqué une opportunité en or à Québec de faire avancer un paquet de projets que si on avait imbriqué les uns dans les autres, on serait rendu à un autre niveau. On serait en train de finir le tramway, puis on pourrait le prendre l'an prochain. On serait en train de creuser le troisième lien, puis on pourrait le prendre avant 2030. Il y a quelque chose de profondément choquant à avoir laissé passer cette opportunité-là, c'est-tu un manque de vision, c'est-tu un manque de proactivité, c'est-tu un manque d'implication parce qu'on y était presque à un moment donné.
Oui,
là.
Ah oui. Puis c'est vrai qu'on serait rendu. Dans certains cas, on serait rendu. T'as raison. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y avait des politiciens qui mettaient de l'eau dans le gaz. Tu sais, c'est compliqué ces projets-là. Puis les gens veulent avoir des explications. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord. On a croisé le fer, toutes les positions confondues. Je pense qu'on porte une responsabilité que s'il n'est pas fait, bien, on a malheureusement à le faire. C'est nécessaire. On va enlever 2700 voitures de la route une fois que le tramway va être fait. Là, pourquoi on fait ça? Il faut se rappeler ça. C'est vers moins de congestion. C'est ça qu'on vise. Alors, c'est plate que ce ne soit pas fait. Je suis d'accord. Ça aurait dû être fait.
Monsieur Marchand, les plaintes ont explosé au niveau du déneigement cette année, puis ça vient de tous les secteurs de la ville à peu près en même temps. Je vais regrouper un paquet de questions dans une question bien simple. Pourquoi cette année, le déneigement est plus poche qu'avant?
Ben, il n'est pas plus poche qu'avant.
Ben, c'est ce que les gens disent.
Okay.
Avec exemple de voici un comparatif par rapport aux dernières années, puis on skip l'année où il y a eu moins de neige. Là.
Non, c'est ça, on skip 2023. Là,
exact.
2020, l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup de neige. L'année passée, il n'y a pas eu beaucoup
de neige. Il n'y a pas eu de tempête, en
fait. C'est ça, exactement. Deux choses. On avait, quand on a fait le rapport, on avait autour de 40 plaintes de plus qu'en 2023. On enlève 2024, là, c'était une année où il n'y a pas eu de neige. Je pense qu'il y avait. Bon. La moitié moins. Je pense qu'il y avait plus que la moitié moins d'opérations en 2023, même s'il y avait autant de neige que maintenant. Et c'est M. Brien, le météorologue, qui disait qu'il y a eu 56 jours à date à l'hiver, il y a eu 49 jours de précipitation. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il neige tout le temps. Puis des opérations de déneigement, on en a fait le double. Plus on en fait, évidemment, plus ça suppose de ramasser de la neige. Il y a des gens qui sont insatisfaits. Le nombre de plaintes, il n'est pas le double par rapport à 2023. Là. Est-ce qu'on doit être à chaque fois analyser pourquoi il y a une plainte et est-ce qu'on doit être meilleur puis apprendre de ça, c'est sûr. Là. Mais c'est pas... Il y a des gens qui disent, par rapport à 2023, c'est le double de plaintes. Non, c'est 40 plaintes de plus sur plus de 600.
Par contre, on a vu dans les dernières semaines, quand il y a eu des problèmes, des gens qui essayaient d'appeler au 3-1, qui se faisaient référer au 9-1. Il y a eu de drôles d'histoires de ce genre-là. Est-ce qu'on est certain que le nombre de plaintes est représentatif de ce qu'il y aurait eu?
Les quelques cas d'exception, faut les travailler puis les améliorer.
Oui, parce que
moi, je me sentirais mal d'appeler au 9-1 pour un problème de gratte.
Exactement. Puis après 15-20 minutes d'attente au 3-1, on se décourage puis on raccroche.
Non, c'est pas supposé. Alors, il y a plus de jours de neige, il y a plus de jours de ramassage de neige. C'est sans rien à voir avec la politique de déneigement, là, cette partie-là. La politique de déneigement, ce qu'elle change, c'est qu'on ramasse la neige un peu plus tard.
Oui, ça oui, tout
c'est,
à fait.
C'est ça que ça change. Mais le grattage, il n'y a rien qui a changé.
Ce qu'on entend beaucoup, c'est que oui, le grattage, il y a des choses qui ont changé, puis il y a des gens qui ont essayé de porter plainte, qui ont même pas eu de réponse, carrément,
mais ça, c'est pas
de la part de la ville.
Ça marche pas.
Ou
à
encore
chaque plainte,
que...
on est supposé faire les suivis nécessaires.
Ou le courriel le va arriver, puis ça va être quelque chose de terriblement formaté, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'écho. Puis au courant des dernières semaines, on a eu des exemples, M. Marchand, par dizaines et par dizaines.
Envoyez-les-moi, j'haïs ça. On va corriger ça. J'haïs ça, ces réponses formatées qui... Non, le citoyen doit être traité avec intelligence, puis ses doléances, ses plaintes ou ses commentaires, on doit les entendre, puis on doit y fournir une explication.
Est-ce que la centralisation des services de déneigement, ça a causé des problèmes qu'on vit aujourd'hui? C'est la théorie du chef de l'opposition, entre autres.
Ouais, non, c'était pire avant. Mais non, parce que tu avais complètement une absence d'uniformité, là.
Mais les gens connaissaient pas mieux leur secteur de déneigement?
Ben non, t'avais des secteurs qui se faisaient par le privé, t'avais des secteurs, ce qu'on appelle en régie, fait par des employés de la ville, t'avais des politiques de déneigement, il y en a qui ramassaient après 5 cm, d'autres après 7, d'autres après 10, grattaient d'une façon, grattaient pas... Regarde à Montréal, là, il y a une décentralisation, puis c'est pire qu'à Québec, là.
Je vais vérifier ma théorie. Est-ce que les conditions des employés, est-ce que les conventions compliquent la situation du déneigement à Québec?
Ouais, j'espère que non. C'est des commentaires qu'on te partage.
C'est une théorie que je vérifie parce que tantôt, on va se parler des patinoires puis j'ai des questions à poser là-dessus aussi. Ça se peut-tu?
Non.
Sur l'heure de sortie, entre autres.
Bien, moi, écoute, on me fera une démonstration si je suis dans le tort, mais je vois pas qu'est-ce qui a changé dans la convention qui pourrait faire en sorte que c'est différent d'avant. On est régi par la capacité du nombre d'heures que doit travailler un employé, mais c'est pas juste des conventions, là. C'est les nombres d'heures que les gens peuvent travailler dans le camion, etc. Oui, il y a des enjeux de convention. C'est pas un enjeu, mais oui, il y a des ententes dans une convention de signer pour respecter le travail des employés et un nombre d'heures qui soit réaliste. Moi, c'est ni la faute des syndicats, ni du patronage, des patrons de la ville pour dire que nos conventions ne sont pas bonnes. On respecte des règles pour que ça se fasse par des humains qui le fassent en sécurité et en étant en forme pour le faire. Je pense pas que c'est là l'enjeu.
Monsieur Marchand, il y a eu comme plusieurs situations concernant des huis clos cette semaine. Je veux juste voir si j'ai bien compris. Pour que l'opposition ait accès aux informations des huis clos, faut absolument qu'ils soient d'accord avec vous autres après le huis clos?
Non, non. L'opposition a eu accès aux huis clos.
Il y a un huis clos? Ou est-ce qu'ils n'ont pas eu l'information auparavant? Non. Il y a eu quelque chose, là?
Non, la politique, depuis des années, c'est que l'opposition et les élus de la ville ne participent pas comme élus, mais l'opposition peut envoyer un membre de son équipe pour être au huis clos, comme nous, on le fait. Mais ça n'a jamais changé. C'était comme ça avant. C'était comme ça avant l'élection.
En début de semaine, par contre, quand Stéphane Lachance a dénoncé le fait qu'ils n'avaient pas été invités au premier huis clos technique sur Tramcité, vous avez répondu en point de presse en faisant un parallèle avec leur présence au huis clos sur la qualité de l'air puis les feux
c'était
de foyer.
C'était pas un huis clos, c'était un planier.
Non, c'était un huis clos technique qui avait été fait, c'était pas un planier.
Non, c'était un planier.
D'où la différence entre les deux.
Oui, le huis clos, il est fait pour les journalistes. Donc, on fait un huis clos avant une conférence de presse et on dit aux médias, vous pouvez venir. L'opposition peut envoyer un membre de son équipe. Comme ça a toujours été le cas, ça ne change pas. Ce à quoi j'ai fait référence, c'est que M. Lachance dit, hey, on veut être invité, on va avoir l'information. Dans le plénier sur la qualité de l'air, il y a des spécialistes qui viennent y dire l'information. Il sort et il dit, je ne les crois pas, je vais engager mon propre spécialiste. Ça sert à quoi que tu sois là?
C'était un huis clos technique concernant les interdictions temporaires pour les appareils à combustible solide. Puis on s'était d'ailleurs posé la question pourquoi ce n'était pas un plénier.
Mais au-delà du terme technique, il semble y avoir un changement de façon de faire les choses qui vous a amené à dire, bien là, on arrive avec les faits puis l'opposition ne croit
pas
les faits. Je pense qu'ils veulent vérifier leurs affaires avec leur personnel.
Il n'y a rien qui a changé par rapport aux huis clos techniques dédiés aux journalistes. Il n'y a rien qui a changé avec les 4 premières années que j'étais là, puis il n'y a rien qui a changé avec ce qui était là avant.
Mais est-ce qu'on a encore le désir de collaborer avec l'opposition?
Mais on a toujours le désir de collaborer, sauf que...
Mais on vous sent irrité, M. Marchand. Je pense que c'est ce qui revient beaucoup par message chaque fois qu'on en parle. C'est comme, voyons, on dirait que là, on n'aime pas le fait que l'opposition essaie de collaborer, de faire sa job. On vous sent un peu
ou des fois de mettre en doute.
Ouais. Non, mais ils ont le droit de mettre en doute. C'est pas ça l'enjeu.
Mais c'est la job, en fait, là.
Ben oui, c'est ça leur job. Je vous dis juste que par rapport, le directeur de la santé publique vient exposer les faits scientifiques. L'opposition sort et dit, on le croit pas, on va engager notre propre expert. On ne croit pas les données scientifiques, on va engager notre propre expert.
Mais ils ont le droit.
Ils ont tout à fait le droit. Ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas en train de témoigner que ce qu'on vous présente comme information, ça a une valeur pour vous. C'est juste ça que je dis.
Mais cette
situation-là... Ils témoignent que peu importe ce qu'on va leur dire, peu importe l'information qu'on va leur donner, ils ne croiront pas.
OK, mais cette situation-là ne change pas comment va se transmettre l'information, parce que c'est l'impression que bien du monde ont eu cette semaine, incluant moi. Là.
Mais oui, mais c'est pas parce que Stéphane Lachance dit ça que c'est vrai. Il n'y a rien qui a changé avec avant. Il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, au huis clos de cette semaine, lundi, il y avait un membre de leur équipe qui était là.
Je ne passerai pas par Stéphane Lachance. Moi, c'est juste que je vous ai entendu dire, ben là, ils ne croient pas les faits. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça donne quoi, là?
Ah non, mais moi, j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, j'ai juste dit, ils ne peuvent pas nous dire, on veut être là, puis on va avoir l'info, puis on considère que l'info est importante, parce que peu importe l'info qu'on leur donne, ils ne la considèrent pas. Ça, c'est ma réponse politique. Maintenant, sur les invitations qu'on fait au huis clos technique pour les journalistes, il n'y a rien qui a changé.
Si à chaque fois qu'on ouvre une patinoire réfrigérée, on ferme 5 patinoires extérieures, on gagne pas à Québec?
Mais, alors, le chiffre n'est pas bon, mais le principe, ça va être inévitable.
C'est 19 patinoires qui sont au bat dans les 2 prochaines années. C'est énorme.
Non, c'est bon, mais ça, c'est pas un fait.
Il y en a combien qui vont fermer là-dedans?
Je sais pas. La ville fait le travail d'évaluer l'achalandage. Les gens nous disent, on veut garder le compte de taxes le plus bas possible. C'est ce qu'on fait. Ça se fait pas sans renoncer à des choses. Alors, on renonce pas juste à des patinoires, on renonce à plein de choses. Des coupes, quand les gens nous disent on veut des coupes, on veut que les taxes soient le plus basses, mais c'est faux. On coupe dans des endroits qui font mal, malheureusement. Parce qu'il y en a pas, c'est pas vrai qu'il y a du gras. Quand les gouvernements vous disent on va couper des endroits puis ça n'aura pas d'impact sur les citoyens, c'est pas vrai.
Les pistes cyclables en hiver qui sont peu pratiquées dans certains secteurs, c'est pas du gras à couper avant des patinoires.
Mais des pistes cyclables comme ça, il y en a pas tant que ça. C'est pas ça qui coûte cher au déneigement.
Non, mais
là,
par le lièvre d'avoir deux types de déneigement, c'est pas comme par exemple sur le Bourgneuf où c'est la piste cyclable puis le trottoir en même temps.
Oui, mais on fait, l'opposition fait grand état des pistes cyclables comme si c'était le poste de départ.
Et c'est pas juste l'opposition. Il y a beaucoup de citoyens, M. Marchand, qui ont décidé de vous faire confiance à la dernière élection en se disant « Il semble être à l'écoute, on va continuer à le signaler. Oui. » Fait que c'est pas juste Respect citoyen qui porte ça. Là.
Non, mais ce que je vous dis, c'est que c'est pas sur les pistes cyclables, présentement, qu'on envoie une somme d'argent qu'on peut récupérer de façon importante.
Il n'y a pas d'économie à faire. Là.
Mais il y en a toujours. Si on ne le faisait pas, tu as raison. Mais présentement, ces pistes cyclables-là sont plus utilisées que les patinoires dont tu parles. Alors, on n'est pas en train de fermer 19 patinoires. La Ville a fait un travail. Il y a quelqu'un qui a coulé le document en disant « Hey, ils vont faire ça ». Non, non. C'est un fonctionnaire qui a dit « Voici ce qu'on pourrait faire ». On n'a pas de prêt à décision encore.
Des citoyens nous ont souligné le fait que certaines de ces patinoires-là étaient mal entretenues puis que ça pouvait expliquer leur faible achalandage. Oui, est-ce qu'on prend ces éléments-là
oui,
en considération?
Non, non, c'est vrai. Certains, ils ont raison. Un des enjeux qu'on a, c'est pas juste la question de l'achalandage qu'on regarde. La tendance, présentement, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers un climat type Montréal.
Particulièrement cet hiver.
Non, pas particulièrement cet hiver. Mais oui, mais si on se fie juste cet hiver pour analyser les tendances, on n'ira pas loin. Là.
Mais
les hivers de Québec, sur une période de 10 ans, vont se transformer.
Je veux bien, mais dans les 5 dernières années, M. Marchand, on a manqué un mois de hockey cette année à la fin novembre, début décembre, parce qu'il y avait des patinoires tout le tour de Québec qui étaient prêtes et l'hiver était pogné. Puis j'ai vécu dans les 5 dernières années l'inverse. Passé la date X où on aurait pu continuer d'entretenir les patinoires de la Ville de Québec, on n'est pas capable de passer cette date-là, même si l'hiver est loin d'être terminé. Donc encore une fois, est-ce que c'est des problèmes de conditions d'employés et de conventions qui font en sorte que c'est problématique de suivre la saison, même si elle est capricieuse?
Oui, non, ça t'as raison. Mais c'est pas
on peut pas s'ajuster à ce niveau-là.
Je pense qu'on s'ajuste. Il y a quelqu'un qui joue avec le...
Votre entrevue se passe pas bien. Là, vous avez un assistant qui vient de créer un blackout.
Votre équipe essaie de faire du sabotage.
Du sabotage. Alors, c'est pas les conventions le problème. Quand tu donnes des contrats à des employés de s'occuper d'une patinoire, bien, tu donnes la prévisibilité. Tu dis, on va arrêter, mettons, le 15 mars. Mmh. L'hiver se prolonge exceptionnellement puis se rend au 31 mars. Là, mes dates sont pas bonnes, mais juste pour expliquer, c'est sûr que c'est plus dur à avoir de l'agilité. C'est dans une grande ville. Quand tu es une ville qui a une patinoire, deux patinoires, c'est plus facile de faire rentrer quelqu'un. À la limite, si tu n'es pas dans son contrat, t'en faire rentrer un autre. Nous autres, on gère 90 patinoires. Alors, mon but, là, c'est pas de dire j'ai du plaisir à fermer, j'ai vraiment pas de plaisir. Mais il y a une chose qui est sûre, ça va coûter de plus en plus cher. Et pour avoir de moins en moins de temps sur nos patinoires non réfrigérées couvertes. Ouais. Alors, on continue notre promesse d'avoir plus de patinoires réfrigérées couvertes pour permettre du hockey encore plus longtemps.
Parce que pour,
et d'autres sports.
Parce que pour reprendre vos mots, dans une ville qui se veut une ville active, une des plus actives au Canada, c'est un luxe de pouvoir dire à Québec, on va s'organiser pour que n'importe quel kid de n'importe quel secteur puisse se rendre à pied pour jouer au hockey sur une patinoire extérieure.
Et c'est ça qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'on construit des patinoires réfrigérées couvertes.
Mais il y en aura pas assez là, pour faire face à toutes ces pertes possibles-là.
Oui, mais là, tu parles du 19 dans un document interne. Il n'y a pas de décision.
Oui, mais la dernière fois, il n'y en avait rien que 5. Là, il y en a 20 de plus. Là. Ouais, fait que c'est normal qu'on panique un peu. Là.
Ben, en fait, non, les questions sont normales. Moi, ce que je vous dis, c'est que la décision n'est pas prise. Je ne vous dis pas que c'est ça.
Est-ce que la décision s'en va vers là?
Ben, moi, ce document-là, je ne l'avais pas encore vu. C'est un document interne où la Ville, c'est ça son travail, faire des analyses en fonction du coût, de l'achalandage et de la météo. Ils disent on pourrait aller jusqu'à fermer 19 patinoires. On n'a pas pris de décision. Fait que j'ai pas vu ce document-là encore. Pourquoi? Parce qu'il est encore interne, puis il monte dans les structures, puis on va faire une analyse. Je rêverais de ne fermer aucune patinoire. Là.
À partir de combien de patinoires fermées, on considère ça comme un échec pour une ville comme Québec, mettons?
Ben, en fait, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça que je l'analyse. À partir de combien de patinoires on est capable d'avoir une réponse aux besoins en fonction du climat, avoir des bonnes qualités de glace, comme il était mentionné tantôt, et de faire en sorte qu'on déjoue le climat avec des patinoires réfrigérées couvertes. Il n'y en avait pas avant que j'arrive. Maintenant, on est en train d'en ouvrir parce que c'est super important et précieux. Même si on s'est fait critiquer par toutes les oppositions comme qu'on ne devrait pas faire ça parce que ça coûtait trop cher, on est allé de l'avant parce qu'on sait que les changements climatiques nous amènent à avoir des saisons de moins en moins intéressantes en termes de durée. C'est pas le cas cet hiver. Mais on n'a pas le choix de se fier à la science, de se dire ben dans 4, 5, 10 hivers, on va revivre ce qu'on a vécu il y a 2 ans, qui est un hiver catastrophique pour le hockey, pour le patin, pour le ballon sur glace et tout, là.
Dans un contexte où la Ville de Québec cherche des économies, c'était-tu le bon moment d'investir dans des caméras thermiques comme dans le film Prédateur en 1985, puis de faire des rondes dans le temps des fêtes pour voir qui allumait son feu de foyer?
Mais ça, c'est pas le coût de ça qui répare une patinoire couverte, là, qui ajoute une patinoire couverte.
Non, mais
ajoute...
vous comprendrez que mis en opposition, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions.
Oui, oui, mais ça, dans une ville, on peut. Oui, mais on peut. C'est drôle parce que chacun a son opinion. OK? Donc, quand on veut le compte de taxe le plus bas possible, les gens qui utilisent les patinoires ne veulent pas qu'on touche aux patinoires. Je les comprends. Les gens qui utilisent les services culturels ne veulent pas qu'on touche à la culture. Les gens qui comptent que sur le déneigement veulent qu'on déneige encore plus. Tout le monde a son endroit occupé, c'est-à-dire l'endroit qui n'utilise pas les services. On essaie de trouver le compromis, les voies de passage, pour faire en sorte qu'on ne coupe pas ces services-là importants, mais parfois, on les diminue ou parfois, on réduit. Moi, j'ai promis qu'on gérerait l'argent comme la prunelle de nos yeux, puis c'est ce qu'on fait.
Là, ça fait un an qu'on parle des feux de foyer, puis on dirait que là, c'est encore de travers dans la gorge de bien des contribuables. Puis j'ai l'impression que là où l'argument passe moins, c'est qu'il y a bien des gens qui disent « ça donne rien parce qu'autour, ils font pas plus ». Puis on prend l'exemple ce matin de 80 % des fermes agricoles de l'île d'Orléans qui chauffent au bois à l'année. Puis quand le vent est de notre bord, ben ça change pas grand-chose au total tout de la région.
C'est plus rare, par contre. Le vent est plus souvent d'ouest vers l'est. Là.
Bon, je pensais pas m'ostiner ces vents aujourd'hui pour être bien honnête.
Les vents dominants en général à Québec sont dans l'autre sens.
Mais de façon,
pas une raison pour qu'ils le fassent.
Il y a des fermes de l'autre bord aussi.
Oui, bon. Mais... les gens pensent à travers ça que c'est comme une idéologie.
Oui, bien, c'est ce qu'ils pensent.
Mais il n'y a rien d'idéologique. C'est ça que le directeur de la santé publique est venu dire la semaine passée.
Dans un effort concerté où tu as un paquet de municipalités, mettons de la MRC au complet, qui embarque, on n'est pas dans le même.
C'est la Ville de Québec qui en a le plus. On parle de 30 000 unités de chauffage. Alors oui, quand il arrive un smog, puis qu'on le voit venir, qu'on pense qu'il va arriver, si on agit en amont, puis... là, on l'a fait 3 fois en 2 ans. Là.
Mm-hmm.
Ça, on parle de quelques
jours.
Oui, mais
jours. Sauf qu'il y a une réglementation qui s'en vient, qui fait que des gens qui décident de changer ça vont devoir dépenser des dizaines de milliers de dollars
avec une
pour
subvention importante.
6 feux de 2 heures dans un hiver.
Non, mais avec une subvention importante.
Oui, mais la subvention ne couvre pas les travaux
elle
de cheminée, puis c'est
pas
marginal.
Puis sur les foyers d'ambiance, il y a encore on a encore besoin d'inventer des choses, c'est vrai. Mais sur la question des poêles à bois, la subvention est généreuse, puis elle peut couvrir jusqu'à 90 % des dépenses. On fait juste ça, là. On fait pas ça pour écœurer personne. On parle de 100 décès prématurés qui arrivent parce que les granules, les particules fines qui s'en vont dans l'air, qui restent ici, là, qui s'en vont pas à Rimouski, là, ben c'est des gens de chez nous qui en souffrent. C'est juste ça, là.
Pourquoi ça passe pas, d'après vous? C'est que les gens sont rendus trop chialeux? C'est qu'ils croient pas la science que vous partagez? C'est quoi votre hypothèse là-dessus?
C'est qu'ils voient peut-être d'autres sources de solutions qui sont peut-être plus grandes aussi?
Il y a d'autres sources de pollution. Mais la plus importante, dans certaines situations, c'est celle-là.
Plus qu'un incinérateur?
Oui. Beaucoup plus qu'un incinérateur. On est capable, avec quelques unités qui chauffent en même temps dans un même secteur, d'avoir plus d'effets négatifs que l'incinérateur au total. Fait que le but, là, c'est vraiment pas d'écœurer personne. C'est juste de mettre une réglementation qui va protéger la vie humaine. C'est juste ça. Et les alertes smog, c'est pour que tout le monde y gagne. Il n'y a pas de dogmatisme, moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un aime ça, s'asseoir devant son foyer, ça y appartient. On fait juste parce que ça a des effets, parce que quand tu brûles, ça a des effets dans ton quartier.
Oui, mais ça, vous nous le dites à chaque fois, mais clairement, le message ne passe pas plus. On va quitter les feux de foyer parce qu'il y a un dossier qui...
98 % des gens, la dernière fois, ont respecté la consigne.
Oui, mais c'est parce qu'il y a bien des gens qui n'étaient pas chez eux dans le temps des fêtes.
OK, mais il y a quand même une majorité de gens.
Ah, mais les consignes, il n'y a pas de problème. C'est la réglementation où c'est problématique. Vous demanderiez aux gens de juste respecter la consigne. Je pense que vous auriez une adhésion qui serait beaucoup plus grande. Je vais aller sur un dossier qui est important que vous avez porté au mois de décembre, entre autres, quand on s'est mis à parler du fameux PEQ, le programme d'expérience québécoise qui avait permis à des travailleurs d'accéder au marché du travail. Hier, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui a appuyé Christine Fréchette, les deux vont dans le même sens. Il n'y aura pas de clause grand-père, alors que François Legault était sorti quand il était allé vous rencontrer à une époque où il n'avait pas annoncé sa démission en disant « il y a juste Laval et Montréal qui sont un problème, pour les autres, il n'y en aura pas ». Est-ce que vous avez eu des échanges depuis?
On a des échanges continus. Après ça,
qu'est-ce qui va se passer avec lui? Vous aviez lui à 13 000 le nombre d'immigrants temporaires à Québec?
Dans une situation comme ça, là, qui sont dans une situation intenable. Puis oublions pas, là, juste brièvement, ça a de l'impact sur Mm-hmm. Tout le monde, là. C'est des gens qui travaillent dans de la restauration rapide, des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, les RPA, à l'hôpital, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent à différents secteurs. Ça touche tout le monde, là. Alors, moi, je ne comprends pas qu'on nous serve des réponses techniques. Puis le fédéral va dire c'est le Québec va dire c'est le fédéral, puis on finit par en perdre toute compréhension du
problème. Le fédéral était à Québec la semaine passée. Est-ce que c'est des questions qui ont été posées?
C'est des questions qu'on parle. Le fédéral, entre autres, c'est lui qui émet les permis de travail. Puis c'est lui qui émet une réglementation pour dire que dans les entreprises, on ne devra pas avoir plus que 10 %.
Puis les réponses que vous avez, les solutions vont venir quand pour les gens qui sont stressés?
Le plus vite possible. Puis là, il est temps qu'on dise à ces gens-là qui se réunissent et qui arrêtent de nous dire c'est la faute de l'autre, puis qui trouvent des solutions. Parce que présentement, depuis un mois, on n'a pas trouvé grande solution. Et c'est vraiment problématique pour tout le monde, pour notre économie et pour ces gens-là d'abord qui vivent une situation complètement intenable. C'est complètement inacceptable.
Je veux boucler la boucle, M. Marchand, puis revenir aux travaux qui ont été annoncés pour les prochaines années. Est-ce que vous êtes devenu de facto le meilleur porte-parole et défenseur de ceux qui veulent du télétravail à semaine longue dans la fonction publique?
Ben oui et non.
Est-ce que vous avez commencé à faire vos représentations là-dessus?
Ben exactement. Puis j'ai demandé, puis Mme Durançon a répondu hier en disant « on va laisser aux gestionnaires des équipes le soin de décider », puis je trouve que c'est une très bonne réponse. N'y allons pas par dogmatisme. Il y a des gens qui ne peuvent pas en faire de télétravail, quand même qu'ils le demanderaient. Ce n'est pas ça le fonction. Mais oui, dans les prochaines années, c'est une des mesures pour faire en sorte qu'il y ait moins de monde au même moment sur la route. Et ceux qui le peuvent, et ceux que les gestionnaires vont pouvoir dire « oui, c'est possible pour toi », et il faut le favoriser.
Monsieur Marchand, je sais qu'on a l'habitude...